Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, l'ONU a lancé aujourd'hui le premier dialogue avec des jeunes sur l'avenir de la planète dans le cadre du 75e anniversaire de l'organisation. Au Mali, les autorités s'efforcent de rétablir l'autorité de l'État dans le nord du pays. Un survivant d'Auschwitz appelle à ne pas oublier l'Holocauste et en dossier, une responsable de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture sonne l'alarme sur l'épidémie de criquet pèlerin la plus grave jamais vue en Afrique de l'Est depuis des décennies. Le secrétaire général des Nations Unies a lancé mercredi à New York le premier dialogue ONU 75 sur l'avenir de la planète dans le cadre des 75 ans de l'organisation. Un dialogue organisé par les jeunes et avec les jeunes qui sont pour Antonio Guterres une priorité. Pascal Sim revient sur l'objectif de cette série de dialogues organisés tout au long de cette année.
ONU 75 est la conversation la plus vaste et inclusive jamais tenue sur le rôle de la coopération mondiale dans la construction d'un avenir meilleur pour l'humanité. Tout au long de 2020, l'ONU engagera des dialogues transfrontaliers, transsectoriels et intergénérationnels en divers endroits du globe, avec pour objectif d'atteindre le plus grand nombre de personnes, d'entendre leurs espoirs et leurs craintes, et d'apprendre de leur expérience. Pour les Nations Unies, cette campagne ONU 75 doit faire naître des conversations dans tous les segments de la société, des salles de classe aux salles de conférence, des parlements aux salles de village, et elle mettra un accent tout particulier sur la jeunesse. C'est le cas avec ce dialogue organisé entre le secrétaire général de l'ONU et 6 jeunes originaires de la Belgique, du Nigeria, de la Roumanie, du Népal, de l'Argentine et de la Jordanie, ainsi que des participants du Soudan du Sud. Aucun pays, aucun groupe n'est en mesure de surmonter à lui seul les problèmes complexes de notre planète. Nous devons nous réunir, pas seulement pour parler, mais aussi pour écouter, avait déclaré Antonio Guterres au début de cette année.
Au Mali, les autorités s'efforcent de rétablir l'autorité de l'État dans le nord du pays. En prélude au déploiement de la nouvelle armée reconstituée à Kidal, le responsable chargé de la démobilisation, du désarmement et de la réintégration au sein de la mission de l'ONU, la MINUSMA, et une délégation du ministère malien de la Défense s'y sont rendus pour faire une évaluation finale du camp qui doit abriter le premier bataillon de l'armée reconstituée. On écoute ce responsable de la MINUSMA, Samba Tall, au micro de Moussa Camara de Mikado FM.
C'est un camp qui a été conçu par l'armée malienne il y a longtemps. Il y a un an, il a été remis à neuf pour abriter le MOC. Donc, comme vous le voyez autour de vous, tous ces bâtiments ont été remis à neuf. Il y a l'eau courante, il y a l'électricité, il y a toutes les capacités d'hébergement, que ce soit dans des tentes ou bien que ce soit dans les bâtiments. Donc, comme le MOC a occupé le camp pendant 4 à 6 mois et qu'ils sont repartis pour leur formation à Bamako, avant de revenir. Donc on était juste venu revoir un peu l'état du camp. Pensons que c'est satisfaisant parce que quand vous regardez, au point de vue nettoyage, tout a été fait, c'était surtout du nettoyage. Aussi le renforcement de quelques points clés pour assurer la sécurité. Donc comme vous le voyez, il y a des bunkers, il y a des postes de garde, il y a tout. Donc sécurité maximale, quoi. Ce camp remplit toutes les conditions de sécurité et de logistique et d'hébergement pour accueillir un bataillon reconstitué. L'AMINUSMA soutient toutes les parties signataires pour l'accord de paix, pour mettre en œuvre cet accord de paix. Donc tout ce qui a été réfection de ce camp, équipement, le forage, a été fait par l'AMINUSMA. Le gouvernement malien a fait le reste pour tout ce qui est des véhicules de transport et des équipements militaires. Donc le gouvernement a donné une part substantielle et l'AMINUSMA l'a soutenu dans l'autre part.
Paul Sobol est un survivant du camp nazi d'Auschwitz. D'origine juive polonaise, lui et sa famille ont été arrêtés le 13 juin 1944 par la Gestapo sur dénonciation. Ils ont fait partie du dernier convoi à quitter le territoire belge en direction d'Auschwitz. Ses parents et son jeune frère ne sont pas revenus. Pour Paul Sobol, la célébration du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz est l'occasion d'essayer de comprendre et de ne pas oublier l'Holocauste. On l'écoute.
Auschwitz a été le lieu d'extermination total de la solution finale. Et la solution finale, c'était quoi? C'était l'extermination totale de tous les Juifs d'Europe, pas seulement des Juifs, des homosexuels aussi, des Tziganes, des témoins de Jéhovah, tous ceux que le régime nazi ne considérait pas comme des êtres humains. C'est ça le problème. Essayez de comprendre ce qui s'est passé. C'est unique dans l'histoire de l'humanité, ça. Il faut aller voir Auschwitz, parce que Auschwitz est finalement un symbole, mais ce n'est pas un petit camp. Sur 80 km carrés, il y a plus d'1 100 000 personnes qui ont été assassinées là-bas. Des gens comme vous et moi, des gens banals, quoi, qui n'avaient rien fait à personne, depuis les enfants, les bébés, jusqu'aux vieillards. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. C'est ça Auschwitz.
L'Afrique de l'Est connaît la plus grave épidémie de criquet pèlerin depuis des décennies. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, sonne l'alarme. Des dizaines de milliers d'hectares de terres cultivées et de pâturages ont été ravagés en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, avec des conséquences potentiellement très graves dans une région où plus de 11 millions de personnes sont déjà en situation d'insécurité alimentaire. On écoute Justine Texier, spécialiste des situations d'urgence et des opérations de réhabilitation à la FAO.
L'invasion a commencé à peu près en juin 2019 en Éthiopie, puis s'est peu à peu propagée au Kenya et à la Somalie, qui sont les pays les plus affectés par l'invasion. On craint qu'il se propage au Soudan du Sud et à l'Ouganda, mais pour l'instant, c'est vraiment les trois pays sur lesquels la FAO concentre ses activités.
Donc, cela va-t-il rendre la situation encore plus grave? Et quel genre de dégâts ces criquets pèlerins font exactement?
Bon, alors sur ce qui concerne effectivement la situation de l'insécurité alimentaire dans ces trois pays, elle est déjà à des niveaux extrêmement élevés, puisque dans les trois pays confondus, on a plus de 11 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire sévère et aiguë. Et puis potentiellement, ça pourrait être 20 millions de personnes de plus qui pourraient être affectées, donc on arriverait à plus de 30 millions. Quant à des premières estimations, on est en train de conduire des évaluations des dommages que causent ces charmantes petites bêtes, mais on peut par exemple dire qu'en Éthiopie, il y a plus de 2350 km de terre qui ont été affectées et on fait déjà état de pertes de récoltes substantielles. Au Kenya, on sait déjà qu'il y a des dizaines d'essaims qui ont envahi le pays depuis janvier 2020 et qu'il y a plus de 70 000 hectares de terre qui ont été touchés. Donc oui, une situation extrêmement préoccupante. Vous imaginez également que selon les pays, on a entre 70 et 80% de la population qui tire ses revenus de l'agriculture. Donc si les récoltes sont perdues à cause de des criquets pèlerins, la situation de l'insécurité alimentaire peut s'aggraver de manière catastrophique.
Et donc, qui est le criquet pèlerin? Vous pouvez peut-être nous le décrire?
C'est une grosse sauterelle, mais en fait, c'est une bête qui fait partie d'une douzaine d'autres espèces qui s'appellent, dans le terme latin, les Acridoidea. Et en fait, ils se déplacent en essaims qui sont très très denses et très mobiles. Alors, ça vit 3 mois. Les œufs éclosent au bout d'à peu près 2 semaines. Et au bout de 6 semaines, les larves deviennent adultes. Et au bout d'un autre mois, les adultes mûrissent et sont prêts à pondre. Donc, son habitat préféré, c'est les zones semi-arides et les zones arides. Et en fait, ils pondent leurs œufs dans des sols qui sont sablonneux et humides. Alors, un criquet pèlerin, ça peut voler pendant 150 km en une journée et que ça mange l'équivalent de 2 fois son poids par jour. Donc ça, c'est des chiffres comme ça qui sont extrêmement parlants. Et qu'un essaim de plus d'un kilomètre peut manger la quantité de nourriture de 35 000 personnes. Donc ça, c'est en effet assez inquiétant et effrayant.
Et le changement climatique favorise la reproduction du criquet pèlerin beaucoup plus vite, c'est ça?
Oui, parce que la pluie, c'est un déclencheur, un catalyseur de la reproduction du criquet pèlerin. Donc au cours de ces dernières années, on a bien vu que les cyclones se multiplient, donc ça a forcément contribué à la recrudescence du criquet pèlerin. Et donc, ça a été vraiment un endroit où les criquets ont pu se reproduire sans être perturbés par aucune activité humaine. Donc, et on estime que c'est à peu près la source originale de cette recrudescence en Afrique de l'Est, celle qu'on constate là aujourd'hui.
Et comment peut-on justement combattre ces acridiens et que fait la FAO?
Alors nous, ce qu'on fait là, c'est il y a des activités de contrôle, donc on applique des opérations intensives de lutte terrestre et aérienne. On a commencé pour réduire les populations acridiennes et pour empêcher la formation des seins et puis d'éviter qu'ils se propagent vers des zones encore plus vulnérables. Donc on essaye de contenir tout ça pour pas que les criquets aillent au Soudan du Sud. Donc il y a des activités qui sont effectuées par notre personnel technique, parce qu'il faut vraiment une expertise. Donc ce sont des experts qui, au niveau d'ici, du siège, au niveau régional et au niveau sous-régional, appliquent des méthodes de lutte qui sont rationnelles et puis adaptées au cycle de vie des criquets. On a également des activités qui visent à anticiper l'impact que peuvent avoir ces criquets pèlerins sur les moyens d'existence. Donc on a des activités avec les agriculteurs pour protéger leurs moyens de subsistance et les éleveurs aussi. Donc là, il y a la saison des pluies qui va arriver en mars, donc il faut vraiment tout mettre en œuvre pour contenir le criquet pèlerin et puis avoir des activités de suivi, de prévision et de sauvegarde des moyens d'existence avec des activités de travail contre rémunération, des transferts monétaires, des fournitures d'aliments pour bétail, des fournitures de semences pour que les agriculteurs soient prêts pour la prochaine saison des semis.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info, retrouvez sur notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité, on se retrouve demain, même heure, même fréquence.